C'est une image assez classique, je veux dire, dans notre imaginaire collectif. On observe un gratte-ciel immense.
Ouais, le truc gigantesque et étincelant en plein centre-ville.
Exactement. Le mastodonte qui domine la métropole. Et de l'extérieur, au lever du soleil, on se dit presque que ce bâtiment en verre et en acier, bah, il a poussé en une seule nuit.
Comme par magie, quoi.
Voilà, une sorte de magie urbaine. Le regard est invariablement attiré par le sommet, par le triomphe final.
C'est normal, c'est ce qui brille.
C'est ça. Mais ce qu'on ne voit pas, jamais en fait, ce sont les mois ou même parfois les années qu'on a passé à creuser les fondations dans la boue.
Les tonnes de béton coulées dans l'anonymat total.
Carrément. On ne voit pas non plus l'enchevêtrement hyper complexe des échafaudages, ni les innombrables réunions d'architectes pour ajuster des plans au millimètre près. En fait, on efface complètement le processus pour ne célébrer que le résultat.
Et c'est un biais cognitif super puissant, cette fascination pour l'achèvement au détriment de la construction.
Ah ouais.
Ah oui, on préfère largement le mythe romantique de la génération spontanée à la réalité, disons, beaucoup plus froide et méthodique de l'ingénierie souterraine. C'est plus rassurant de croire au génie soudain plutôt qu'à l'effort invisible et besogneux.
C'est clair. Et du coup, quand on bascule dans le monde de l'industrie musicale, qui est un monde fascinant mais souvent très opaque, cette illusion d'optique est multipliée par 100.
Oh, au moins.
On allume son autoradio, on entend un tube absolu, on voit un artiste émerger de nulle part pour exploser sur la scène internationale, et là, l'instinct nous pousse à croire au destin.
Le fameux mythe du succès foudroyant.
Voilà, la chance pure, l'étoile filante qui frappe au bon endroit au bon moment.
Sauf que, en coulisses, la réalité ressemble beaucoup plus à ce chantier de construction extrêmement rigoureux dont tu parlais.
Et c'est pile pour ça qu'on est là. Notre exploration du jour va justement braquer un projecteur très puissant sur ces fameux échafaudages invisibles de l'industrie musicale.
Un projecteur nécessaire, oui.
Et pour ça, on plonge au cœur d'un document rare, une source vraiment révélatrice pour quiconque s'intéresse à la musique. C'est la plaquette commerciale détaillée d'une structure qui s'appelle Radio Tam Tam Africa.
Et l'analyse de cette source, ça nous offre une radiographie parfaite de l'ombre de l'industrie.
C'est une agence de promo, c'est ça, hein?
C'est ça, une agence très spécifique, spécialisée dans la promotion musicale, les relations médias et la conception de campagnes radio très ciblées. C'est le genre de documents qui, normalement, ne circulent qu'entre professionnels.
D'accord.
Parce que ça détaille vraiment la mécanique financière et stratégique de la visibilité.
Donc la mission de notre décryptage aujourd'hui, c'est de démonter cette mécanique, rouage par rouage.
Exactement.
On va se servir de cette plaquette pour comprendre très concrètement comment un artiste indépendant peut réussir à se faire entendre dans un espace hyper saturé, et ça sans avoir le budget colossal d'une grande maison de disques.
C'est le nerf de la guerre.
On veut montrer comment se construit méthodiquement, vraiment brique par brique, une véritable empreinte médiatique.
Et c'est une démarche cruciale, parce que lire ce document, eh bien, ça pulvérise instantanément une idée reçue super tenace, l'idée qu'il faut obligatoirement viser le sommet de la pyramide médiatique dès le premier jour pour percer.
Bon, décortiquons tout ça depuis la base.
Vas-y.
Pour bien saisir la valeur de l'offre de cette agence, il faut d'abord identifier à qui elle s'adresse. Et là, le document laisse aucun doute. Cette machinerie, elle est pensée pour les artistes indépendants, les petits labels, les managers en développement.
Ou les producteurs émergents, oui.
Mais là où ça devient, disons, totalement contre-intuitif par rapport au mythe du succès spontané, c'est la cible médiatique.
Ah, la fameuse cible.
La stratégie de Radio Tom Tam Africa, c'est de présenter un single selon son univers, son territoire, avec une stratégie millimétrée, mais, et c'est là le point clé, en assumant totalement de ne pas chercher la couverture nationale.
Si on relie ça à une vision plus globale, la formulation dans la plaquette est même d'une brutalité assez rafraîchissante, en fait.
C'est-à-dire?
Eh bien, il est stipulé sans aucune ambiguïté que les radios nationales sont formellement exclues des campagnes de promotion. C'est écrit noir sur blanc dans les conditions.
Ah ouais, carrément exclu.
Oui. L'effort se concentre de manière obsessionnelle sur les radios locales, les stations régionales, les fréquences associatives ou même les web radios très spécialisées.
Mais c'est un choix qui paraît complètement insensé au premier abord.
Pour le grand public, oui.
L'instinct de n'importe quel créateur, ce serait de vouloir être entendu par la plus grande foule possible, non? En fait, c'est comme comparer deux stratégies de commu diamétralement opposées.
C'est-à-dire?
D'un côté, tu utilises un mégaphone géant au beau milieu d'un stade rempli de centaines de milliers de personnes.
Ok.
Sauf que le problème, c'est que ces gens, bah, ils mangent des hot dogs, ils discutent, ils regardent ailleurs, ils n'ont absolument rien demandé. Ça, c'est le fantasme de la radio nationale pour un artiste inconnu.
C'est une très bonne image.
Et de l'autre côté, la stratégie proposée ici, c'est plutôt d'entrer dans des tout petits salons feutrés très intimes et d'aller chuchoter directement à l'oreille de quelques personnes triées sur le volet.
Des personnes qui sont venues exprès pour écouter des histoires.
Voilà. Et pour comprendre pourquoi la stratégie du mégaphone est vouée à l'échec pour un indé, faut regarder comment fonctionne une grande station nationale, non ?
Exactement. Une radio grand public, il faut bien comprendre qu'elle ne vend pas de la découverte à ses auditeurs.
Elle vend quoi alors ?
Elle vend de la familiarité et de la rétention d'audience pour ses annonceurs publicitaires. Sa programmation, elle est verrouillée des mois à l'avance.
Par des algorithmes, j'imagine.
Des algorithmes, des comités d'écoute, ouais. Ils cherchent le plus petit dénominateur commun. Le but absolu, c'est qu'aucun auditeur ne change de station pendant son trajet du matin.
Du coup, essayer de placer un artiste indé avec un son un peu nouveau sur une antenne nationale, c'est pas juste ambitieux, c'est une grosse erreur de casting.
C'est peine perdue.
C'est comme essayer de vendre un fromage artisanal super affiné au guichet d'un fast-food.
Ouais, c'est pas le bon public.
Les clients dans la file d'attente, ils sont pas là pour une expérience gastronomique complexe. Et de toute façon, le manager a pas le droit de servir autre chose que le menu standard.
Ton analogie illustre parfaitement le problème de contexte. À l'inverse, les web radios spécialisées ou les locales associatives, elles fonctionnent sur une ligne éditoriale super affûtée et cherchent la nouveauté. Leurs programmateurs cherchent activement à se différencier. Leur public ne veut pas un fond sonore inoffensif. Il vient chercher une identité, une vraie découverte, qu'il trouvera nulle part ailleurs.
D'accord.
En ciblant ces acteurs de niche, l'agence ne cherche pas 1 million d'auditeurs distraits, mais plutôt 5 000 auditeurs profondément passionnés.
La densité d'attention.
Exactement. C'est cette densité qui permet de créer une première base de fans, ceux qui achèteront des places de concert plus tard.
Ok, donc on pose une fondation très dense plutôt que de bâtir un immense château de cartes.
Mm-hmm.
Très bien. Mais si on admet que la grande radio nationale n'est pas au programme, y a une question légitime qui se pose.
Laquelle ?
Qu'est-ce qu'un artiste achète réellement quand il signe un chèque à cette agence ?
Ah, la vraie question !
C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que le document dévoile un concept assez clivant.
C'est le moins qu'on puisse dire.
L'agence ne vend aucune garantie de passage à l'antenne. Elle ne vend pas non plus de l'espace publicitaire déguisé. Elle vend une métrique très précise qu'elle appelle le retour qualifié.
Ah ! Et ce concept de retour qualifié, c'est littéralement la clé de voûte de toute cette économie de la promo indépendante. D'ailleurs, la plaquette prend grand soin de le définir de manière presque juridique.
Oui, absolument. Selon eux, un retour qualifié, c'est une réponse identifiable et traçable d'un média qui a été contacté.
Voilà.
Dans le meilleur des cas, c'est un avis éditorial enthousiaste, une demande d'interview ou une confirmation que le titre rentre en playlist.
Ça, c'est le scénario idéal.
Sauf que, et c'est là que ça coince, le document précise très clairement que ce fameux retour inclut aussi le refus argumenté.
Oui.
Ils insistent bien, le média conserve son indépendance éditoriale absolue, il n'y a aucune garantie.
Cette transparence est vitale pour protéger juridiquement le promoteur, mais surtout elle révèle la dureté de l'écosystème.
Mais attends, je vais faire un peu l'avocat du diable. Pourquoi un jeune artiste, qui a sûrement vidé ses économies pour enregistrer son titre, paierait une agence pour obtenir une collection de refus argumentés ?
C'est vrai que ça paraît fou.
C'est fondamentalement masochiste. On demande à un créateur de financer sa propre remise en question. De payer pour qu'un programmateur inconnu lui dise genre le refrain manque d'énergie ou le mixage de la batterie est nul.
C'est dur pour l'ego.
C'est le cauchemar absolu pour un artiste.
Ce qui est fascinant ici, c'est de regarder la situation du point de vue de la réalité du marché.
Vas-y, explique-moi.
L'instinct de protection de l'artiste est super compréhensible. Mais pour comprendre la valeur inestimable de ce refus argumenté, imagine le quotidien d'un curateur musical aujourd'hui.
Il doit recevoir pas mal de trucs.
Avec la démocratisation des outils d'enregistrement, un programmateur de radio locale reçoit facilement des centaines de morceaux par semaine.
Des centaines ?
Oui. Et face à ce déluge, la réponse par défaut de l'industrie, c'est pas le rejet poli, c'est le silence abyssal.
Ah, le fameux trou noir des boîtes mail.
C'est ça.
Là où les liens d'écoute vont mourir sans jamais générer le moindre accusé de réception.
Et ça, c'est la pire chose qui puisse arriver à un créateur. Parce que le silence ne fournit aucune donnée.
C'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi ça n'a pas marché.
Exactement. L'artiste, coincé dans ce vide, il ne sait pas si son email a été bloqué par un filtre anti-spam, si la photo donnait une mauvaise impression, si le style ne collait pas à l'émission ou si sa chanson est juste mauvaise en fait.
Le silence fiche tout.
En payant pour obtenir un refus argumenté, l'artiste brise cette glace. Si 5 web radios prennent le temps de répondre « l'ambiance est bonne mais la voix est trop en retrait », l'artiste vient de s'offrir un diagnostic hyper précis.
Ok, je comprends l'aspect clinique du truc. Mais c'est occulter l'aspect émotionnel, non ? Un musicien indé, c'est pas une boîte qui teste un nouveau prototype de mixeur. C'est de l'art ?
Bien sûr.
Entendre que sa voix est trop en retrait sur une chanson qui parle, je sais pas, d'un traumatisme personnel, c'est dévastateur.
C'est violent, oui.
Payer pour ça, c'est presque contre nature par rapport à la démarche artistique pure.
C'est un dilemme profond. Mais la transition vers la professionnalisation exige justement cette dissonance.
C'est-à-dire ?
Au moment où l'artiste décide d'envoyer son œuvre à un média pour qu'elle soit diffusée publiquement, l'art devient, de facto, un produit culturel soumis à un marché.
C'est triste, mais c'est vrai.
Et les agences comme Radio Tam Tam Africa agissent comme un filtre amortisseur. Elles transforment une démarche viscérale en une campagne mesurable.
Une étude de marché, en gros.
Exactement. Le refus argumenté devient une étude de marché en temps réel. Ça donne la possibilité de pivoter.
Pivoter, comment ça ?
Soit en retournant studio corriger ce fameux mixage, soit en comprenant qu'on s'est trompé de cible et que la chanson a plus de chances auprès de médias spécialisés, je sais pas, dans l'ambiant, plutôt que sur des radios pop.
Ah, je vois. Le feedback, même cruel, c'est la seule boussole dans ce brouhaha.
C'est exactement ça.
Bon. Le passage de la création intime à la réalité du produit culturel. C'est brutal, mais d'une logique implacable.
Ouais, on peut pas y couper.
Alors, maintenant qu'on perçoit la véritable nature de ce qui est vendu, on a dit pas la gloire garantie, mais une stratégie de niche et une récolte de données.
Tout à fait.
Penchons-nous sur la manière dont cet accès est chiffré. Parce que le document met en avant trois niveaux d'investissement, trois paliers.
Et l'évolution de ces tarifs, c'est un cours magistral sur ce que grandir implique réellement dans l'industrie ?
Alors, qu'est-ce que tout ça signifie ? Si on prend la première offre, ils appellent ça l'offre découverte.
Oui, proposée autour de 490 euros.
Voilà. C'est pensé pour un premier test sur un seul territoire. L'objectif promis, c'est une cinquantaine de radios ciblées pour environ 40 retours qualifiés.
C'est déjà une bonne base pour commencer ?
Mais le détail fascinant, je trouve, c'est ce qui n'est pas inclus dedans.
Ah oui, les options.
La rédaction de la biographie de l'artiste et le communiqué de presse pro, bah, c'est juste des options payantes. L'agence estime visiblement qu'à ce stade hyperlocal, on peut se contenter d'une approche super informelle.
Et c'est logique, sur un périmètre aussi restreint où tu cibles des animateurs de radio locale ou associative, le vernis institutionnel est moins vital.
Un mail tout simple, ça suffit ?
Souvent, oui. Un mail court, sincère, avec un lien d'écoute d'un artiste du coin, ça peut suffire à déclencher un retour. C'est vraiment la phase de validation du concept.
Mais là où la mécanique se corse, c'est quand les ambitions grandissent. On passe au niveau intermédiaire, l'offre expansion.
Celle qui frôle les 790 euros.
C'est ça. Le document précise que c'est le meilleur rapport visibilité-budget. Là, on passe à 90 radios sur deux territoires, avec jusqu'à 80 retours. Et soudainement, le communiqué de presse n'est plus une option.
Il est intégré d'office, oui.
Il est imposé dans le package. Par contre, la bio reste optionnelle.
Cela soulève une question importante sur la professionnalisation des outils.
Vas-y.
Quand la cible s'élargit, la nature de la communication doit muter. Et ça se confirme encore plus avec la troisième offre.
L'offre Impact, à 1190 euros.
Exactement.
Là, on est sur du lourd. 150 radios, multi-territoires, 140 retours. Et la surprise, tout est inclus. Bio, communiqué, suivi complet. Il y a même un bonus pour diffuser le clip vidéo sur leur propre chaîne télé.
Le niveau d'exigence change radicalement. Cette bascule de l'optionnel vers l'obligatoire raconte toute la complexité du passage à l'échelle.
C'est comme dans un jeu vidéo, non ? On passe du tutoriel local au niveau avancé où il faut débloquer les gros outils pour battre les boss.
C'est un peu ça. Quand un artiste sort de sa zone de confort pour attaquer 150 médias disséminés partout, il s'adresse à des pros soumis à une pression de temps énorme.
Ils n'ont pas le temps de lire un mail brouillon ?
Voilà. Ils n'ont plus le temps d'être indulgents vers une présentation amateur ou un simple lien balancé comme ça.
En d'autres termes, pour attirer l'attention à grande échelle, l'indépendant doit commencer à enfiler le costume de la major. Il doit mimer les codes des grosses structures.
C'est exactement le mécanisme. Le communiqué de presse et la bio hyper ciselée, c'est pas juste des bouts de papier, ce sont des outils de narration.
Pour raconter l'histoire de l'artiste.
Oui, un programmateur bombardé de sollicitations n'a pas le temps d'inventer un angle pour présenter un nouvel artiste. Le dossier de presse prémâche le travail éditorial.
Il fournit l'anecdote accrocheuse, clé en main.
L'agence sait très bien que cibler 150 radios sans cette narration, ce serait un suicide stratégique.
Le budget supplémentaire finance l'indispensable professionnalisation de l'image.
C'est fascinant. L'évolution de ces offres démontre, de manière super implacable, que l'argent n'achète pas la popularité comme par magie.
Ah non, pas du tout.
il finance une force de frappe logistique. Et plus tu tapes fort, plus tes outils de com doivent être sophistiqués. On ne paye pas pour que les gens aiment la musique.
Non, on paye pour que le contexte force le respect des pros.
C'est ça. C'est une progression itérative, très loin du hasard. L'artiste sonde le terrain, encaisse les retours, digère les refus, ajuste.
Puis il professionnalise son discours et relance la machine plus fort.
C'est l'antithèse de la chanson postée un soir qui devient virale le lendemain par l'intervention du Saint-Esprit.
Le mythe s'effondre totalement.
Oh ouais, désolé.
Mais bon, la réalité dévoilée est finalement bien plus rassurante pour les créateurs. Ça redonne du pouvoir à la méthode.
Tout à fait.
La réussite est tout sauf accidentelle. C'est une stratégie chirurgicale qui demande une lucidité extrême. Accepter d'ignorer les grands canaux nationaux pour investir les micro-cibles hyper qualifiées.
Et ça demande la résilience psychologique d'accepter que le refus argumenté est une victoire en soi. Ça sort le projet du silence mortifère.
L'investissement doit être graduel. Mais bon, ce fonctionnement pyramidal nous pousse inévitablement vers une réflexion beaucoup plus large.
Sur l'avenir de la culture populaire ?
Ouais. Carrément. Si les web radios spécialisées et les micro-communautés sont devenus les uniques labos de recherche de la musique indé, on peut s'interroger sur l'évolution des rapports de force.
C'est-à-dire ?
Si tout le travail fondamental de détection et d'ajustement se fait dans ces espaces obscurs, est-ce qu'il est possible que les immenses succès radiophoniques de demain ne soient plus jamais décidés dans les bureaux des grandes radios nationales ?
C'est une perspective qui pourrait bouleverser tout l'écosystème.
C'est fou d'y penser.
L'avenir de la musique de masse pourrait basculer vers un modèle ascendant. Au lieu que le goût soit dicté par le sommet de la tour, ce sont ces centaines de micro-communautés qui imposeront leur découverte par la force du nombre.
Les grands réseaux deviendraient de simples suiveurs, quoi. Contraints de valider ce que la multitude locale a déjà couronné.
Une inversion totale du pouvoir.
Direct à notre gratte-ciel du début.
La boucle est bouclée.
La prochaine fois qu'un artiste semblera s'imposer soudainement, rayonnant comme une évidence absolue, il sera indispensable de regarder au-delà de la façade.
Derrière l'illusion de facilité.
Exactement. Il faudra imaginer les centaines de courriels envoyés un par un des petites radios, les refus encaissés, les retours en studio pour corriger une ligne de basse et l'angoisse de rédiger une bio qui sonne pas prétentieuse.
Tout ce travail acharné de fourmis pour poser les premières briques.
Les fondations sont invisibles, mais c'est la seule chose qui empêche la structure de s'effondrer au premier coup de vent.
C'est dans cette ingénierie de l'ombre, souvent ingrate, que réside la vraie noblesse du développement artistique. La magie n'existe pas, il n'y a que de l'architecture.
Une architecture dont nous avons exploré les moindres recoins souterrains aujourd'hui.
Et c'était passionnant.
Sous ces airs de grande loterie glamour, l'industrie cache des mécaniques d'une précision redoutable. À très bientôt pour un nouveau décryptage des systèmes silencieux qui façonnent notre monde.